petit palato chichou poupou.
Bon David, c'est bon d'être un enfant.
Anne Reuillon est professeure des écoles en maternelle dans une école publique à Paris. Toute l'année, elle nous accompagne dans le cahier parents de Pomme d'Api. Voici son témoignage dans lequel elle raconte pourquoi elle a fait évoluer sa manière d'enseigner et comment tout a changé dans sa classe.
Donc en septembre 2016, j'ai eu l'obligation de me faire opérer. Pour des raisons très handicapantes au niveau des pieds. Et du coup, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à être clouée au lit pendant 2 mois sans avoir du tout le droit de bouger. Donc ça a été super compliqué parce qu'il faut penser à s'occuper intellectuellement quand on est coincé dans son lit. Et le truc, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'école, évidemment, puisque c'est un temps que j'avais une liberté totale dans ma tête et ça m'a permis de faire un retour sur moi-même, sur comment je pratiquais la classe depuis de temps si nombreuses années. Et alors le truc, c'est que j'habite en face de l'école et donc à chaque fois, 11h30, j'entendais les enfants qui sortaient, j'entendais les enfants qui rentraient à 1h30, avec plein de bruit, toute cette vie. À chaque fois que je voyais la pluie tomber, je me disais « Oh là là, mes pauvres collègues qui sont coincés avec les enfants », enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui me faisaient tout le temps penser à l'école. Et en même temps, j'ai eu le moment, à ce moment-là, de réfléchir à tout ce qui ne me plaisait pas à l'école et tout ce qui ne me plaisait plus dans ma façon de fonctionner habituelle.
Une lecture et une décision qui fait son chemin.
J'avais déjà lu l'année précédente le livre de Céline Alvarez qui s'intitule « Les lois naturelles de l'enfant ». Et ça m'avait plu, mais c'était une telle transformation que j'étais pas dans la capacité de faire le changement à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais j'avais pas les moyens matériels et physiques d'accepter ce changement. Et c'est une telle transformation que ça peut pas se faire en 5 minutes, en vrai. Donc il faut avoir le temps d'y réfléchir et il faut avoir le temps de se dire que c'est possible. Donc j'étais dans mon canapé en train de réfléchir à tout ça. Et c'est juste à ce moment-là que Céline Alvarez a mis sur son site une quantité énorme de vidéos gratuites en libre service. Et donc cette formation que je n'avais pas, j'avais lu le livre, mais c'était pas suffisant pour pouvoir faire ma transformation et l'adapter à l'école. Ces vidéos où je la voyais, tout le monde peut la voir, hein, en train de présenter telle activité aux enfants directement. On la voit quand elle était en train de se filmer dans son école à Gennevilliers. Du coup, je me suis dit, mais vraiment, c'est possible. Donc, il y a eu une période transitoire où entre le « c'est possible » et où « je vais le faire » est arrivée.
Des nuits sans sommeil avant le changement radical.
J'ai eu un déclic incroyable, c'est-à-dire quand j'ai commencé à me dire « ok, je le fais », j'ai pas dormi pendant 3 nuits, mais réellement, physiquement, je n'ai pas pu dormir. C'est-à-dire que j'avais pas le temps dans la journée on a tous sa propre vie à la maison, avec les enfants, avec tout ça, toute cette vie-là qui nous prend l'esprit. Et donc, il fallait vraiment que j'aie du temps que pour moi. Et donc, la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Qu'il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que ça allait changer. Et ça changeait tellement de choses que mon cerveau, il était en ébullition. Et il n'arrivait pas à se reposer parce qu'il se posait 12 000 questions. Et à chaque fois, je réfléchissais à toutes les réponses que ça allait, enfin, qu'il fallait que je trouve pour résoudre ces problèmes-là.
C'est moi qui compte.
Un problème ?
C'est moi qui compte, je suis obligée de faire au début maintenant.
C'est pas toi qui vas me dire.
Dans mon cerveau, c'était très clair. Une fois que j'avais un problème, je trouvais la solution, c'est comme si c'était écrit dans mon cerveau. J'ai pas eu besoin de noter parce que je notais la journée. C'est-à-dire que le matin, quand je me levais, je faisais mes exercices de rééducation que j'avais à faire. J'avais ma vie, on va dire, normale. Et l'après-midi, je notais toutes les réponses que j'avais trouvées dans la nuit. Je les notais sur une feuille. Et c'était pas que des réponses théoriques. C'est-à-dire que, par exemple, des choses toutes simples, l'aménagement de la classe. Ma classe était aménagée d'une certaine façon, traditionnelle avec des tables et des regroupements et ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire des activités de travail avec une table de 6 enfants plus pour les activités mathématiques, une table plus pour le langage, une table plus pour le graphisme, une table où on faisait les arts visuels, et tout ça, ça n'existe plus. Toutes ces questions-là, je réfléchissais la nuit et je les notais l'après-midi sur des feuilles de papier. Je me suis fait des plans de la classe à la maison, de mémoire, en faisant l'ancienne version et la nouvelle version. Et comment c'était possible? Comment je pouvais faire? Alors j'avais un problème d'échelle, donc il a fallu que je repasse une fois dans ma classe le soir parce que je m'étais trompée dans mes calculs. Mais voilà, tout ça c'était en ébullition et je n'ai vraiment pas dormi pendant 3 jours. Alors je devais faire des siestes dans la journée, je pense, pour récupérer, je me rappelle plus. Mais clairement, il fallait que je trouve les solutions à tous les problèmes avant de me lancer. Et pour moi, c'était pas possible de me dire... Je sais qu'il y a certains enseignants qui font ça, c'est-à-dire qui font progressif, qui font une année de transition où ils font à moitié des ateliers de vie pratique et à moitié le fonctionnement habituel. Mais dans ma tête, c'était une fois que c'était décidé, il fallait que ce soit complètement décidé et avec sans retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se lance, voilà, il faut y aller à fond et se donner les chances de voir ce que ça va donner et d'y arriver. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de questionnements matériels, de questionnements aussi... par rapport aux enfants, évidemment, qu'est-ce que ça allait faire de leur changer comme ça en cours d'année? Parce que moi, je reprenais mon travail en janvier. Donc, les enfants, je les avais quittés juste avant les vacances de Toussaint. Et comment j'allais le présenter aux enfants? Comment ça allait se passer pour eux, le changement aussi, si c'était pas trop brutal? Voir comment leur présenter pour que ça reste ludique, rigolo.
La réunion avec le directeur de l'école.
Donc une fois que je l'ai eu décidé, au bout de 3 jours, et une fois que je me suis rendu compte que matériellement c'était possible, c'est-à-dire que j'avais les capacités financières pour commencer à acheter du matériel, et aussi pour pouvoir avoir le temps d'en fabriquer, et que ça soit prêt pour janvier, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à mon directeur d'école, puisque effectivement, même si on ne dépend pas de lui, je trouvais ça normal de l'informer de ce changement qui était quand même assez radical. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai commencé à lui expliquer que voilà, j'avais décidé de tout transformer dans la classe. Alors au début, ça l'a pas trop surpris, ça, parce que il a trouvé ça normal que je change, parce qu'on fait beaucoup de changements dans les classes. Par contre, quand j'ai commencé à lui dire que j'allais changer ma façon pédagogique de travailler, c'est-à-dire que j'allais présenter le travail à chaque élève en individuel, là, je l'ai vu qui était complètement démuni par rapport à mon discours, qui avait les yeux qui sortaient de la tête et qui se retrouvait devant le fait accompli en se disant « Mais comment ça va se passer? Comment elle va faire? Elle a qu'une ASEM, il y a 30 élèves dans la classe, comment on peut faire ça ?» Et j'ai voulu aussi lui expliquer pourquoi ça était important pour moi et comment fonctionnait le cerveau d'un enfant, parce que finalement, j'avais jamais vraiment pris conscience avant de me pencher sur le livre de Céline Alvarez et de toutes les vidéos qu'elle met en ligne à la fin de sur son site, de Stanislas Dehaene et tout ça. J'avais enfin compris comment ça fonctionnait et je trouvais ça juste incroyable qu'on nous l'ait jamais appris. Et donc, j'avais envie de le partager, ce savoir-là. Et donc, la réunion avec mon directeur, ça a été, ben voilà, un cerveau d'enfant fonctionne comme ça. Est-ce que tu le savais? Ben non, il tombait des nues. Ok, moi non plus, je le savais pas avant. Mais de voir quelqu'un qui découvre comment ça fonctionne, c'est juste magique. Et de lui dire voilà, alors il faut apprendre comme ça, il faut faire comme ça. Quand on travaille avec un enfant, le plus important c'est de lui apprendre à se retenir en premier lieu, être le contrôle inhibiteur dont tout le monde parle maintenant. Mais effectivement, c'est super important. C'est-à-dire que ça sert à rien de commencer à vouloir faire des apprentissages purement scolaire entre guillemets, si déjà l'enfant sait pas se retenir, si déjà l'enfant sait pas se concentrer. Et donc toute cette base qu'on doit travailler avec les petites sections était fondamentale et je devais faire ça, je devais changer.
Arrête, compte dans ta tête.
Céline Alvarez ou Maria Montessori?
Compte dans ta tête.
Au tout départ, franchement, j'essaye de me repencher à mon état d'esprit quand j'étais à ce moment-là, en octobre, on va dire plutôt novembre, décembre, je n'étais concentrée que sur Céline Alvarez. Elle dit elle-même qu'elle s'est inspirée beaucoup des travaux de Maria Montessori, puisque tout son site, tout son livre, on en retrouve une grande partie, il y a beaucoup de citations, et on sent qu'elle est complètement imprégnée des travaux de Maria Montessori. Mais moi qui travaille dans une école publique, c'était encore un autre pas à franchir. Maria Montessori, c'était sont essentiellement des écoles privées et j'arrivais pas à me projeter sur ce type d'école. Alors que Céline Alvarez avait travaillé dans le public et du coup dans une zone d'éducation prioritaire REP++ avec des enfants très pour lesquels l'apprentissage était compliqué, donc ce qui n'est pas trop le cas dans notre école. Et donc je me disais qu'elle avait réussi à le faire. Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas changer? Et pourquoi pas se dire, il faut y croire, en fait, et c'est le moment ou jamais.
La différence entre apprendre ou construire un individu.
Le changement a été profond parce que j'ai vraiment compris que la façon dont que j'avais d'enseigner auparavant ne coïncidait pas avec la façon dont qu'ont les enfants d'apprendre. Et ça a été un choc pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça roulait et je m'en contentais. J'avais vraiment l'impression que les enfants étaient heureux dans la classe, qu'ils apprenaient beaucoup de choses, ce qui, je pense, était le cas finalement. Tout le monde était plutôt content d'être dans la classe. Mais entre être content et puis savoir ce qu'on apprend, pourquoi on l'apprend et construire un individu, c'est quand même complètement différent. J'avais toujours l'impression que j'avais 2-3 enfants qui étaient laissés pour compte, les enfants avec lesquels on sent bien que ce qu'on fait, ça ne marche pas, les enfants n'apprennent pas, ils savent toujours pas compter plus de 3 à la fin de l'année, ils savent toujours pas se concentrer, ils savent toujours pas se retenir, des enfants qui ont des problèmes avec la gestion de leurs émotions. Tout ça, je le vivais dans la classe et j'étais démunie, je ne savais pas comment faire. Alors comme on est dans un environnement où socialement, c'est très mélangé notre population dans notre école, bah, du coup on arrivait à s'en sortir parce qu'on en avait 4-5 comme ça, mais Céline Alvarez qui se retrouvait avec la totalité de ses enfants qui étaient porteurs de ce type de difficultés, elle n'avait pas de choix, c'était pas possible autrement, elle pouvait pas fonctionner autrement.
Le déclic.
L'autre déclic, hormis la nuit, les 3 nuits là où je me suis décidée à changer, c'est que en décembre, les collègues m'ont invitée à venir faire une réunion à midi, et donc une réunion de concertation où on devait travailler sur les programmes pour l'année d'après, une réunion obligatoire. Alors moi j'étais en arrêt maladie, j'étais pas censée venir, mais je me suis dit ok, ça sera sympa de les revoir, ça me plaisait bien d'aller retravailler avec eux. Et finalement, lors de la réunion, je me suis rendu compte de l'écart de ce qu'ils attendaient et de ce que Céline Alvarez avait pu proposer et de ce que moi j'espérais pouvoir proposer dans ma classe. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. C'est-à-dire que mes collègues ont commencé à parler de toutes ces instructions officielles qu'il fallait, pour lesquelles il fallait se battre. Effectivement, c'est super important et puis c'est notre devoir de nous y plier aux instructions officielles. Mais la façon dont on travaille traditionnellement avec un schéma type, avec des exigences particulières à chaque fin d'année, c'est-à-dire ne jamais laisser l'enfant se donner 2 ans ou 3 ans pour y arriver, ça m'a choquée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ce moment-là que mon cerveau ne fonctionnait plus comme ça. C'est-à-dire que j'avais pas encore vraiment accepté cette idée de changement, mais je n'étais plus dans le fonctionnement traditionnel. Et je me suis rendu compte face à mes collègues qui, pour eux, c'était normal, c'était la routine. Je fonctionnais comme ça 2 mois avant, je me posais pas de questions. Mais le cheminement des questions que je commençais à me poser avec ce travail de lecture et d'approfondissement sur le site de Céline Alvarez, je me suis vraiment dit, mais là, je suis plus du tout en adéquation avec cette façon de fonctionner. Ça a été le déclic. C'est-à-dire que vraiment là, je me suis dit, ben, c'est fini, ça, j'en veux plus. J'en ai assez de faire des préparations qui ne servent à rien finalement, qui est du beau discours, du pédagogique, ok, mais qui ne te sert à rien dans ta classe, à toi, et quand t'en as besoin en tant qu'enseignant, mais c'est un vrai manque, c'est-à-dire tu sais là où ça va pas, tu sais ce qu'il faut faire pour aider les enfants, il faut te lancer, il faut y aller, voilà. C'est ça qui m'a fait dire que, mais ok, le changement allait me coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est juste monstrueux tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour en valait la chandelle parce que j'avais déjà fini d'arrêter de penser traditionnellement.
Peut-être que votre première voix.
Du bricolage maison pour fabriquer du matériel.
Une fois que la décision a été prise de changer, il a fallu que matériellement j'ai le temps de faire tous ces changements-là, puisque c'est du matériel qui est Maria Montessori a créé en grande partie, hein, qu'elle a inventé, imaginé, testé, et retesté et recorrigé. Donc c'est du matériel qui est extrêmement bien fait et je n'avais pas les moyens de tout acheter. Il fallait que j'en fabrique la plus grande partie de manière à ce que ça soit possible de le faire matériellement. Et alors là, comme je le disais, j'ai été arrêtée. Donc au bout d'un moment, je pouvais quand même remarcher, heureusement. Et donc j'ai profité de toutes ces 3 semaines, on va dire, où je pouvais marcher. Il fallait pas que je marche trop longtemps, mais je pouvais marcher et je pouvais bricoler. Et donc je me suis organisée pour que ce matériel, j'ai tout fait à la maison. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des aides qui étaient mes enfants, qui étaient ma maman aussi, qui est venue beaucoup m'aider. Par exemple, les cadres d'habillage. Alors, les cadres d'habillage qui donc sont censés aider les enfants à s'habiller tout seuls. On va pas leur montrer comment s'habiller tout seuls sur eux-mêmes. C'est un peu complexe au départ puisqu'ils sont à l'envers. Et donc, du coup, on va leur montrer avec un cadre. Toujours pareil, avec une démonstration. Donc, l'intérêt, c'est pas que de savoir s'habiller. Il y a plein d'autres intérêts qui se cachent derrière et qui sont travaillés. Mais on va dire que ce matériel-là, qui est fondamental quand on rentre en petite section, donc là, comme moi, j'avais des petites sections, il fallait absolument que j'ai ce matériel-là dans la classe, j'étais en mesure de pouvoir le fabriquer. De manière à économiser de l'argent pour pouvoir acheter du matériel que je ne pouvais pas fabriquer. Et donc du coup, il y avait des tutoriels sur internet que j'ai trouvé. Donc on a cherché avec mon garçon Paul qui était un peu disponible aussi à ce moment-là, qui a pu m'aider. On allait acheter du bois chez des revendeurs, enfin comme on a pu. Et on était avec aussi. Alors tout ce que je pouvais pas faire à cause de mes pieds, c'était lui qui faisait. Donc il sciait. Moi, je me suis occupée de la partie peinture. Il est allé chercher des cadres qui étaient des cadres d'encadrement de tableaux parce que ça coûte vraiment pas cher et voilà dans des endroits de matériel d'art et moi j'ai trouvé des morceaux de tissu chez Emmaüs qui coûtaient rien non plus et comme ça du coup j'ai pu couper, coudre et voilà fabriquer cette tour là qui représente beaucoup d'argent finalement mais en plus j'étais très contente de le faire parce que j'avais l'impression aussi de progresser moi dans ma tête, je me disais ah bah tiens ça je le fais pour ça, ça je le fais pour ça les enfants quand ils vont le faire il faut que je fasse de telle façon pour que ça soit plus pratique pour eux et donc finalement de le fabriquer ce matériel comme j'ai eu la chance d'avoir eu le temps de le faire ça m'a laissé le temps de me projeter sur comment les enfants allaient l'utiliser et donc du coup je me le suis approprié moi aussi. Ça m'a permis d'être, de mieux comprendre comment j'allais m'en servir. Je pense que ce matériel-là, je l'aurais acheté, j'en aurais pas forcément vu autant d'utilité.
Et ça montre où il dort.
La métamorphose.
Le chemin des zi montre où il dort dans son petit nid.
Donc une fois tout ce matériel fabriqué, j'ai aussi fait des courses dans des endroits où il y a de la vaisselle pas chère, avec des plateaux pas chers. Enfin, voilà, j'ai essayé de rassembler dans ma maison, avant de venir à l'école, tout ce matériel dont j'avais besoin. Et donc, je l'ai stocké dans mon salon, ce qui a pris une place, mais juste énorme. Il a fallu que je pousse la table du salon, que je décale tout. Mon mari a commencé à se dire que je devenais complètement zinzin parce que ça me prenait non seulement un espace dans ma tête, mais un espace aussi vraiment dans la maison. Donc, c'était un peu rigolo en même temps parce que moi, ça me permettait de voir que ça prenait tournure. C'est-à-dire que là, concrètement, j'avais sous les yeux tout le matériel que j'allais utiliser. Alors, c'était dans des sacs, c'était bien rangé, des cartons et tout. Mais ça y est, le changement opéré. Parce que c'est très compliqué de se projeter dans une... Quand on est en arrêt maladie comme ça, c'est très compliqué de se projeter sur une classe qu'on n'a plus. On a des élèves qu'on a envie de revoir, mais on les a pas sous la main. J'étais en train de me familiariser, d'apprendre, de m'imprégner des vidéos d'Alvarez, alors même que j'avais pas d'élèves pour pouvoir le mettre en place, donc je n'avais qu'une envie, c'était de les voir, mes élèves, pour pouvoir faire avec eux. Et je commençais donc à installer tout ce matériel, mais je pouvais pas l'installer, j'avais pas ma classe. Donc du coup, c'était un gros bazar dans l'espace, alors que dans ma tête, c'était clair. Donc c'était voilà un peu rigolo. Et puis, je pense que là, toute ma famille a compris à quel point cette transformation était importante pour moi et à quel point ça allait tout changer finalement. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait quand même pas mal, on va dire, de préparation, je veux dire, dans la classe et tout ça. Il y a toujours beaucoup de choses à découper en maternelle et ça m'a toujours pris beaucoup de temps. Mais là, ils sentaient que c'était différent. C'était le plus intense et plus intime finalement. C'était quelque chose de plus... de plus... j'ai du mal de trouver mes mots parce que ça fait tellement partie de moi maintenant que c'est compliqué de me reporter à 3 ans avant. Mais j'avais vraiment l'impression d'une transformation, comme une métamorphose. J'étais un peu comme une petite chenille dans son cocon. Alors j'étais encore dans ma maison, j'étais encore bien protégée. Mais je changeais, je me métamorphosais comme si après, plus tard, j'allais pouvoir sortir mes ailes et aller voler avec mes élèves, quoi. En fait, c'était un peu comme ça, je le voyais.
Et après, faudrait faire un trait ici. Parce que là...
15 jours pour tout changer.
En fait, là c'est dans le pot rose.
Après, le changement matériel... ma remplaçante a fini un vendredi et le samedi j'ai demandé l'autorisation à mon directeur et à mon gardien de commencer à venir travailler. Et il a été super gentil. On a un gardien qui est super efficace et qui a bien voulu m'ouvrir l'école. Et là j'ai eu 15 jours pour tout changer. Et donc du coup il a fallu que je déménage des meubles, que je déménage des tables, que je puisse me rendre à la cave pour pouvoir déposer tout ce mobilier là qui était hors de question de jeter, puisque je ne savais pas si finalement au bout de 2 ans j'allais pas tout rechanger à l'envers, parce qu'on sait jamais, on a le droit de se tromper aussi. Et en plus je pouvais pas trop porter de choses, donc il a fallu que mes garçons viennent m'aider, parce que avec mes pieds ça allait pour me déplacer, je pouvais marcher mais je pouvais pas porter, donc très très compliqué. Ça a été aussi un moment où j'ai pu expliquer à mon ASEM que j'allais faire la transformation, parce que elle a été choquée autant que moi du changement. C'est-à-dire que moi je l'avais décidé et je voulais pas qu'elle ait l'impression que ça lui soit imposé. Donc il a fallu que j'essaye de la convaincre de l'importance de ce changement.
C'est l'ami des jardiniers.
Oh ben ça se fait pas, ça se fait pas. Ça.
La transformation de la classe.
Non, pas du tout.
C'est facile d'imaginer 16 ans dans la même classe, une montagne de matériel qui ne servait pas toujours d'ailleurs, mais des meubles que, par exemple, c'est tout bête, mais il a fallu enlever les pieds aux meubles pour qu'ils soient à taille d'enfant. Alors, le premier changement, ce tableau horrible tout vert que je ne voulais plus voir dans ma classe parce que finalement il sert à personne, surtout en petite section. Donc ce tableau aimanté, je l'ai enlevé, j'ai descendu à la cave, sauf que le mur derrière était tout moche puisqu'il n'avait jamais servi. Donc il a fallu qu'avec maman on aille racheter une plaque de bois pas trop épaisse, parce que sinon trop lourde, mais pas trop fine non plus pour qu'elle se casse pas. On l'a refixée au mur, on a repeint en blanc pour que ça soit propre. Le fondement de la pédagogie, c'est que le matériel ne soit pas détourné par l'affichage et par des murs qui attirent le regard et qui détournent de la concentration. Donc il faut vraiment essayer d'épurer tous ces affichages, que ce qui reste, ça soit utile pour l'enfant. Et donc du coup, j'ai enlevé une montagne d'étagères que j'avais, qui était à hauteur d'enfant et qui gênait finalement la concentration. Tous les meubles que j'ai pu réutiliser, je les ai réutilisés. J'ai aussi récupéré dans la rue des meubles qui avaient été jetés, que j'ai repeints. Le principe, c'est que tout le matériel qui est à hauteur d'enfant ne doit servir qu'aux enfants. Donc moi, qui avais plein d'affaires de maîtresse à moi, à hauteur d'enfant, il a fallu que je remonte tout et que j'enlève tout le reste. Alors, je n'avais pas d'argent à ce moment-là encore. Beaucoup, enfin j'en ai toujours pas non plus trop, mais heureusement les parents m'ont beaucoup soutenue, mais jusque-là ils n'étaient pas rentrés dans le projet, donc je savais pas comment ça allait marcher.
Le changement du côté des enfants.
Apprendre à se retenir, pourquoi ? Apprendre à se concentrer, pourquoi ? Alors la concentration, ça paraît évident pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage sans concentration, mais apprendre à se retenir, il n'y a pas d'apprentissage non plus si on ne sait pas se retenir. Apprendre à se retenir, c'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, c'est la base de l'apprentissage. Si on ne se retient pas, on n'apprend pas. Ça, je ne le savais pas avant. Et donc, du coup, la priorité, c'est de montrer aux enfants, enfin, c'est que les enfants apprennent à se retenir avant d'agir, à ne pas être dans l'action tout de suite. Et ce temps-là, il va arriver parce que dans les démonstrations, c'est d'abord l'adulte qui montre, l'enfant regarde, et après l'enfant réalise. Donc, les enfants, au début, ça leur a demandé un grand changement. C'est ce qui a été le plus difficile pour eux. C'est qu'ils ne pouvaient pas, on leur présentait avec Chou un atelier, ils ne pouvaient pas faire l'atelier tout de suite. Il fallait qu'ils attendent qu'on ait fini de le démontrer, qu'on ait fini de le faire, pour eux pouvoir le faire ensuite.
Et les parents ?
Pour mieux préparer les enfants... et les parents, parce que j'avais aussi besoin de leur aide à ce moment-là et de leur compréhension. parce que je pense que pour tout le monde, ça a été une vraie grosse transformation. J'avais prévu deux choses super importantes. J'ai envoyé un mail à tous les parents de la classe pendant les vacances, à la fin des vacances de Noël, en leur demandant d'apporter dans un sac pour la rentrée une paire de chaussons. Le principe étant, pourquoi des chaussons? Ça paraît tout bête, mais dans la classe, c'était prévu qu'on travaille donc avec des tapis et qu'on travaille beaucoup par terre. Il y a beaucoup moins de tables. Et je trouve ça très logique d'être en chaussons, de manière à ne pas salir l'environnement de la classe. C'est super important. C'est comme si on rentrait chez soi avec des chaussures toutes sales. Ben non, on enlève les chaussures quand on rentre. Et bien là, c'est pareil. J'avais envie que les enfants ils se sentent chez eux. Et donc, j'avais besoin des chaussons. Donc, j'avais besoin de l'aide des parents. Donc, ils ont super bien joué le jeu. Ils ont fourni une petite paire de chaussons marquées au nom de l'enfant, etc. Et je leur avais dit que je ne pouvais pas leur expliquer pourquoi, mais qu'il y avait une grosse surprise qui était préparée dans la classe et que de manière à ce que les enfants puissent la découvrir avec moi, la surprise, non pas avec eux et que ça soit un peu biaisé, je leur avais expliqué que j'allais faire l'accueil le premier jour de la rentrée de janvier, je ferai l'accueil dans le préau et pas dans la classe. Mais pour pas qu'ils soient trop frustrés, parce que je comprenais bien qu'ils aient aussi envie de voir la surprise et les changements de la classe, je leur ai proposé une réunion le soir même. Et donc le soir même, j'avais tous les parents à 18h dans la classe.
Quand les enfants découvrent leur nouvelle classe.
La première réaction, c'était « Waouh, ouais, c'est grand !» Ça les a vraiment choqués parce que le fait qu'il n'y ait plus de table au milieu de la classe, notre classe, elle est apparue mais 100 000 fois plus grande. Et donc, ils ont eu l'impression d'avoir beaucoup d'espace. Alors, en contrepartie, ils n'avaient pas tout de suite le droit d'y aller puisqu'il fallait qu'on leur présente les jeux. Donc, on s'est organisé, on a pris des groupes de 3 ou 4 enfants avec nous en autonomie, et les autres sont restés dans les coins-jeux, qui étaient encore là, présents à ce moment-là. Et donc, du coup, les coins-jeux étaient d'une partie de la classe, où les enfants ont pu jouer librement, tranquillement. Je leur avais demandé de ne pas faire trop de bruit, parce que on avait du travail à présenter important. Et donc, avec Chou, on a fait une présentation, dans la mesure du possible, individuelle, ou par deux au maximum, de manière à pouvoir avancer et à présenter le plus d'ateliers au plus grand nombre. Rapidement. Mais oui, la plus grande chose qu'ils ont remarqué, c'est « waouh, c'est grand !» Et l'autre chose, c'est « waouh, c'est beau !» Parce que le matériel qui était mis en valeur dans les étagères, sur des petits plateaux, je m'étais arrangée pour trouver de la vaisselle un peu jolie. Alors, il faut savoir que toute la vaisselle Montessori casse. Enfin, la vaisselle Montessori, c'est pas du tout de la vaisselle Montessori, c'est juste que les ateliers de vie pratique ne sont faits qu'avec de la vaisselle qui casse. Donc les enfants n'en revenaient pas de pouvoir utiliser cette vaisselle qui casse. Ils avaient l'impression de même pas pouvoir y toucher au départ. Ils n'osaient pas prendre des plateaux avec toute cette porcelaine, il y a des plateaux en porcelaine avec j'essaye de réfléchir, mais avec la théière, avec la petite soucoupe, la tasse, toute cette vaisselle-là à laquelle ils n'ont pas le droit de toucher, même souvent à la maison aussi, c'était en libre service, ils n'en revenaient pas, ils se disaient non, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Et alors, la plupart des enfants me disaient mais non, mais je vais la casser. Et je fais mais c'est pas grave, tu vas te concentrer, tu vas y arriver, on va y arriver ensemble. Voilà, c'était vraiment la surprise du changement, mais la surprise de cette liberté. Je leur donnais la possibilité de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu faire avant. Et ça, je pense que c'était, ils se sont dit, waouh, elle met la barre haute en fait, le challenge est grand. Et j'ai eu vraiment l'impression qu'ils ressentaient ça au départ. C'était, c'est pas possible, on va vraiment pouvoir faire tout ça? Voilà.
Le changement, une question de survie.
Je pense qu'on est de plus en plus dans un univers où, enfin, dans un monde où on a peur du changement. Mais quand on voit à quel point ça va être important et à quel point ça va être riche et porteur, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire le pas, à passer le pas, à se dire on tente. Parce que c'est presque une question de survie. On en a assez que, enfin, moi j'en ai assez d'attendre. J'en avais assez aussi d'attendre que le changement me vienne d'en haut. Je me disais toujours oui, ben le jour où ils feront en sorte qu'on fasse des classes comme ça, ça m'ira bien. Mais non, il y en a assez. Je pense que civiquement même, il faut se rendre compte de la chose aussi qui m'avait choquée quand j'avais lu le livre de Céline Alvarez, c'était 400 000 enfants. Par an sortent sans les bases de la lecture, de l'écriture et des mathématiques en CM2. 400 000 enfants par an qu'est-ce qu'on attend pour changer ça? Enfin, je n'avais pas connaissance de ces chiffres-là avant. C'est vrai que nous, comme on est dans un environnement plutôt mixte, on n'avait pas ce sentiment-là. Mais effectivement, si je compte ces 2-3 parents, 2-3 enfants par an qui avaient des difficultés, ben, si on compte dans toutes les classes, ça en fait déjà rien que 40 dans notre... Enfin, on est 9 classes, ça en fait... Oui, c'est ça, au moins 30 dans notre école. 30 qui vont pas être capables de lire, écrire, compter à la fin du CM2. Mais c'est juste pas possible. Enfin, moi, en tant qu'individu, en tant qu'enseignante, je me disais, j'en ai assez que ça arrive, ça. J'en ai assez d'en laisser pour contre, d'en laisser sur le carreau tous les ans. C'est pas possible. Il faut que je me batte pour que ça n'arrive plus. Quand j'étais clouée dans mon lit, dans mon canapé, c'était à ça que je pensais. Je me disais, mais c'est pas possible. J'en ai assez. Tous ces enfants-là qu'on, c'est pas qu'on oublie parce qu'on y pense tout le temps, mais qu'on peut pas aider parce qu'on n'a pas les moyens matériels de les aider. On n'a pas cette possibilité de pouvoir les aider individuellement puisque on n'est pas en travail individuel. Là, maintenant que je suis en travail individuel, les enfants, je sais exactement où ils en sont et je sais exactement ce que je dois leur apporter pour pouvoir les aider. Quand on est en travail de groupe par 6, 8 ou même des fois quand on est 28 assis par terre en train de parler ensemble, finalement on maîtrise rien du tout. Et on peut pas aider l'enfant là où il en est. On peut pas lui proposer l'apprentissage qui est juste un peu plus compliqué que ce qu'il sait. C'est forcément ou trop facile ou trop difficile. On a vraiment, c'est le gros coup de bol si on y arrive au bon moment.
Le rythme de l'enfant.
Je pense qu'il y a aussi autre chose qui me dérangeait, en plus de ces 2-3 enfants laissés pour compte, je voulais partir de là, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des enfants qui en un an, enfin c'est pas un an puisque c'est 8 mois d'école, mais de septembre à juin, enfin maintenant juillet, n'avaient pas le temps de se réaliser dans la classe. Et ça, c'était aussi un autre problème que j'ai soulevé quand je fais mon melting pot des questions de choses que je ne voulais plus voir dans la classe. Je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient besoin d'un rythme plus lent que d'autres et qui finalement arrivaient aux mêmes apprentissages, arrivaient à condition de leur laisser la chance d'avoir le temps de le réaliser. Et ça, c'était vraiment aussi quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est que... fondamentalement, on laisse aux enfants, les enfants 8 mois avec la même maîtresse et l'année d'après, on change tout, on recommence avec une nouvelle maîtresse et tous les enfants qui sont un peu timides, qui sont un peu réservés, qui sont un peu fragiles, ces enfants-là, ils doivent tout recommencer en septembre l'année d'après. Alors bien sûr qu'ils ont des apprentissages, donc ils recommencent pas à zéro. Ils recommencent aux apprentissages où ils étaient en juin. Mais quand même, c'est super dur de devoir tout recommencer à zéro, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau de la façon de fonctionner. Je veux dire, intégrer une nouvelle classe, c'est comme si on arrivait dans un nouveau pays, hein, finalement, avec une nouvelle langue, une nouvelle... Voilà, c'est compliqué pour un enfant de 3 ans, enfin qui a 4 ans du coup, pas toujours, à la rentrée de septembre. Et ce rythme de l'enfant-là, je trouve que dans la méthode que j'utilisais jusqu'à présent, il était bafoué. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas en compte les différences.
Prendre le temps de grandir.
Il y a des enfants qui fonctionnent très vite, très bien, peut-être même des fois trop vite, trop bien, qu'on a du mal de suivre, il faut courir derrière. Et puis il y a des enfants mais qui ont besoin de ce temps. Et ce temps de lâcher prise est super important. Ça m'a beaucoup questionnée parce que moi j'ai tendance à être dans l'hyper-contrôle, d'en savoir où en est chacun, et ça depuis toujours. Hein. Donc par exemple, dans ma façon précédente de fonctionner, quand je travaillais normalement, tous les graphismes des enfants étaient affichés avec chaque fois le nom de l'enfant, de manière à ce que moi je sois sûre que tout le monde ait fait son travail. Chacun le faisait à sa façon, mais comme ça j'étais sûre, voilà, toujours dans le contrôle, les peintures pareilles, on accrochait tout, il y avait des petites photos des enfants de la classe, et ils savaient, leur travail était fini, on l'accrochait ensemble, les parents pouvaient le regarder, voilà, c'était un rituel. Donc, ok, mais il y a des enfants qui n'étaient pas capables de le faire à ce moment-là. Alors, j'accrochais la production qui était du moment-là, mais je trouvais ça horrible de pas pouvoir leur proposer la semaine d'après, et la semaine d'après, et encore la semaine d'après, que ces enfants-là aient le temps de le faire. Et c'est une autre violence, pour, je trouve, pour un enfant, qu'il n'ait pas le temps. Et On vit dans une société hyper pressée où tout le monde est toujours en train de courir partout. Je vois bien les parents qui arrivent le matin, toujours à courir après le temps pour eux vite aller au travail. Et je comprends, hein, tout le monde a ses impératifs et ses obligations. Mais si le monde de l'enfance rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire de notre société plus tard? Enfin, comment on peut pas se dire à brusquer tellement un enfant, on l'empêche de se construire. Enfin, on l'empêche de se construire d'une façon sereine. Et je trouve que c'est notre rôle aussi à nous, la maternelle, de leur laisser le temps d'apprendre et de leur laisser. Bien sûr que je suis pas dans le. C'est pas grave, mon chéri. T'as pas le temps. Enfin, t'as pas envie maintenant. Tu fais rien. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que dans la classe, les enfants savent qu'ils ont des tâches à réaliser. Donc dans ce grand cadrage, il y a une hyper liberté et un temps de l'enfant. C'est-à-dire que, ok, ils le savent. Là en ce moment, t'as pas envie de faire ça. Ok, j'entends. Mais alors, c'est d'accord la semaine prochaine ou demain, on le fera ensemble. Je leur laisse une temporalité dans leur choix d'action. Alors, à moi de veiller à ce que, effectivement, le lendemain ou la semaine d'après, ils le fassent, qu'on le fasse ensemble. Mais voilà, je suis sortie de « si, c'est maintenant, et il faut le faire, et c'est comme ça, et t'as pas le choix. » Ça, c'est fini.
Des moments magiques.
Réellement, les enfants qui prennent leur temps sont essentiellement les petites sections, qui ont besoin de plus de temps que les autres. Parce que, encore une fois, le passage de la maison ou de la crèche ou de la garderie ou de la nounou à l'école, c'est un monde complètement différent. Et tellement différent, c'est comme si on parlait une autre langue. C'est une langue étrangère. Imaginez, vous arrivez dans un nouveau pays, ben voilà, il faut apprendre la langue avant de pouvoir commencer à vivre bien pleinement dedans. Et donc du coup, ce temps-là, il est fondamental chez les petits, et je pense que je suis beaucoup plus détendue par rapport à ça. Maintenant, les enfants ont aussi des périodes à laquelle ils ont besoin de temps. C'est pas uniquement les petits. C'est-à-dire que ils ont des périodes de très grande production où ils vont vouloir beaucoup apprendre et où ils vont être très sollicitants par rapport à l'adulte. Ou un autre enfant, un autre grand qui peut leur apprendre. Donc ils vont être très demandeurs. Et puis il y a des périodes où on les voit plus, où ils ont disparu, où on les voit même pas forcément en train de travailler, mais c'est comme si c'était en gestation dans leur esprit. C'est en train de maturer. Et donc du coup, on a vraiment l'impression qu'ils perdent leur temps. Quelquefois même moi je perds patience, je me dis moi aussi il faut que je travaille mon contrôle inhibiteur là-dessus. C'est-à-dire que je suis obligée de me retenir à pas leur dire bah écoute là quand même la toureuse tu connais, ça fait je ne sais combien de fois que tu joues avec, peut-être tu pourrais faire un jeu plus compliqué. Je le faisais au début. Là vraiment que depuis cette année où j'ai arrêté de les stresser par rapport à ça parce qu'il y a des moments, on ne sait pas pourquoi mais ils ont besoin de ce temps. De ce temps à faire ce qui les porte. Et c'est un temps où ils accomplissent des tâches dont ils ont besoin, eux. On peut pas nous-mêmes savoir à l'avance ce qu'ils ont besoin de faire. Ça peut être laver une table. Il y a des activités de vie pratique très complexes où on apprend à laver les plantes, on apprend à laver une table, on apprend à se laver les mains, complètement en autonomie, avec des tâches et de la mémoire de travail complexe. La mémoire de travail, ça va être la capacité de se rappeler des différentes étapes pour arriver à un résultat. Donc, laver une table, c'est très complexe parce qu'il faut d'abord débarrasser la table. Voilà, il y a plusieurs étapes et il y en a de nombreuses étapes. Donc, c'est très complexe. Et voilà, ces enfants-là, ils sont plus dans les mathématiques, ils sont plus dans le langage, ils sont plus dans la lecture, plus dans l'écriture. Ils ont besoin, à ce moment-là, de s'occuper de la classe. Et on pourra faire tout ce qu'on voudra pour les en détourner, ils y reviendront. Donc, il arrive un moment, ça sert à rien de... Alors, au début, on a du mal de lâcher prise. Hein. C'est super difficile de se dire, quand même, il a lavé 4 tables aujourd'hui, il va peut-être faire autre chose. Mais non, c'est de l'ordre du besoin. J'avais un petit garçon qui s'appelle Octave, qui, à la rentrée de moyenne section... avait décidé qu'il ne voulait faire que la table de 100. La table de 100, c'est ordonner de 1 les chiffres, les nombres de 1 à 100 C'est comme un puzzle avec des petits cartons où il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Tout est mélangé et il faut les ranger dans l'ordre sur une table quadrillée. Et moi, je trouvais que c'était trop difficile pour lui. C'est toujours pareil. Mais on se met soi-même la pression, finalement, sur ce que les enfants sont capables de faire. Et cet enfant-là, il a commencé, ça devait être le premier jour de rentrée de moyenne section, hein, vraiment le premier jour, la rentrée. Et il s'est dit, moi, je veux faire ça. Et je lâcherai pas tant que je l'aurai pas fait. Il est resté la matinée entière dessus, 3 heures, enfin un peu moins avec la récré. Mais je suis allée le voir plusieurs fois en lui disant, mais tu sais Octave, tu peux peut-être aller faire un autre travail. T'es pas obligé de faire ça toute la matinée. Si tu veux, tu peux t'arrêter, continuer l'après-midi. Je voyais bien que ça lui demandait une énergie terrible et qu'il se mettait dans un état parce qu'il voulait y arriver. Alors il me disait non, je vais le faire, je vais y arriver, je vais le faire. Alors bon, au bout de 2-3 détournements, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, il va voir, au bout d'un moment, il y arrivera ou pas, ou il abandonnera. Il n'a jamais abandonné. Et jamais abandonné. Le premier jour, il l'a fait, il a mis la journée. Le deuxième jour, il a mis un peu moins de la journée. Le troisième, il a fait ça toute la semaine. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un enfant qui était assis à table, à vouloir faire que ce travail-là. Qui je suis, moi, pour lui dire non, arrête. Donc, vous voyez, là, c'était ma début de rentrée de moyenne section. C'était donc ma première vraie rentrée, on va dire, en fonctionnement Montessori. Et j'étais pas capable moi-même de voir que c'était ce dont il avait besoin à ce moment-là. Mais ce temps qu'il a passé à faire ça, ça a construit son intelligence. Pas seulement, ça a construit aussi sa concentration. Ça a construit sa volonté. Ça a construit énormément de choses qui sont porteurs, finalement, pour lui, pour ses apprentissages futurs. En dehors de savoir faire la table de sang, je veux dire, et c'est magique. Et des moments comme ça, il y en a tout le temps dans la classe. C'est-à-dire que il faut vraiment leur faire confiance en se disant, les enfants sont maîtres de ce qu'ils savent faire et ils savent se poser des challenges beaucoup plus importants que ceux qu'on pourrait leur donner.
Tout petit, tu poupou.
Bon d'habit, c'est bon d'être un enfant.